Oh, mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein? Par exemple, bon, il y en a plein, hein? Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 26 juin. Comme je le disais en préambule, ce seront les dernières nouvelles de la saison puisque la grille d'été va commencer et que nous allons vaquer avec toute l'équipe et bah, à ranger tout ça, à préparer la rentrée, à prendre un peu des vacances aussi, c'est pas mal. Et puis les infos, bah là vous avez vu, c'est pas facile, hein. Moi je me suis absenté une semaine et le monde est de nouveau sans dessus dessous. Alors ce que je vous propose pour aujourd'hui, on va se laisser de côté Trump, l'Iran, les hypothèses, les théories sur l'avenir au Moyen-Orient. Parce que bah déjà, il y en a partout, ça croule dans tous les sens. Il est assez difficile justement d'avoir des choses un petit peu pertinentes à ajouter. Les seules informations dont on est encore sûr, malheureusement, c'est qu'à Gaza, on meurt toujours de faim ou sous les drones et les balles en allant chercher à manger. On est sûr aussi que le régime iranien, de son côté, fait la chasse à ses opposants. Et d'ailleurs, une partie de celles et ceux qui étaient emprisonnés dans la prison de Levin, bombardés par Israël ce week-end, sont encore sous les décombres a priori. Et parmi eux, certainement aussi les deux otages français dont on n'a pas de nouvelles. Bref, les trois autocrates, hein, pour ne citer que Donald Trump, Netanyahou et le régime des Mollahs en Iran, font leur guerre à leur petite sauce, histoire de préserver chacun son pouvoir et d'éviter ensuite, certainement, de devoir répondre de leurs actions, que ça soit devant la justice ou la population. Un bel exemple pour nos générations jeunes, à qui on souhaite bien du courage. Et je vous invite, si vous souhaitez justement prendre un peu de recul, à aller lire le texte qu'a écrit l'ami Bruno Le Dantec dans une tribune sur Mediapart qui circule un peu depuis une semaine. Je vous laisse aller le consulter si vous le voulez. Il essaye justement de prendre un peu de hauteur avec les soi-disant barbares, hein, qui sévissent chez nous et ces images affligeantes de guerre et notamment du génocide à Gaza. Le texte s'intitule « Gaza et l'épidémie de couteau ». On va plutôt parler de météo, hein, c'est de rigueur, il fait chaud, on est au courant, la France suffoque déjà. Eh bien, le pire est à venir, c'est ce que souligne en tout cas une étude qui a été publiée le 20 juin dernier par Climameter. C'est un projet Climameter, un projet de recherche qui est financé par le CNRS et l'Union européenne. Selon donc cette étude, une vague de chaleur intense, vous le savez, a touché l'Europe occidentale et méridionale du 20 au 22 juin, notamment chez nous, hein, la France, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni aussi. Ça marque la 50e vague de chaleur en France depuis le début des mesures, qui est datée à 1947. Et cette vague de chaleur a été précoce avec des niveaux remarquables pour un mois de juin, sans être pour autant inédit, hein, précisé quand même Mathieu Sorel, climatologue à Météo France. Cette vague de chaleur, si on est précis, elle a été plus chaude de 2,5 degrés Celsius que celle des dernières décennies, toujours donc selon l'organisme Climameter. Elle a été aussi plus sèche, avec moins d'eau, hein, près de 2 mm par jour de précipitations. Ces conditions météo n'ont toutefois pas été exceptionnelles, rappelle l'étude, puisqu'il est désormais possible d'avoir une vague de chaleur sans situation météorologique extrême. Ça, ce sont un peu les termes, la terminologie utilisée justement par les climatologues et météorologues. En tout cas, Climameter attribue ces températures élevées bien au changement climatique et bien d'origine humaine, dont les activités sont consommatrices d'énergie fossile. La variabilité naturelle du climat qui existe, mais elle a certainement joué un rôle très faible dans cette vague de chaleur. Et c'est ainsi qu'on peut donc prédire malheureusement que de telles vagues de chaleur risquent d'être de plus en plus fréquentes. En tout cas, c'est ce que souligne cette étude. Et en parallèle de ces chaleurs et conséquences souvent directes, les orages dévastateurs, hein, comme on a pu en voir ces dernières semaines et ces derniers jours, des orages qui ont notamment balayé une large partie de la France hier, avec au moins 2 personnes décédées, recensées en Mayenne et dans le Tarn-et-Garonne, et plus de 17 blessés. Ces épisodes orageux sont très localisés et inattendus, ils font donc beaucoup de dégâts matériels aussi, hein, notamment souvent avec la présence de grelons, comme parfois gros comme des balles de tennis, hier dans le Gers, ou alors des vents et des pluies qui balayent tout et font par exemple tomber des arbres et abîme des infrastructures, voilà. On en profite d'ailleurs pour passer une petite info qui pourra aussi être dans l'agenda culturel. C'est au, justement au climatographe du Mont-Aigoual, c'est le nouveau nom de la station de la partie pédagogique de l'Observatoire du Mont-Aigoual, que se tiendra la première université d'été qu'ils organisent. Et ça commence tout bientôt, ça sera du 30 juin au 4 juillet. Et pendant ces 5 jours, 70 chercheurs justement analysent les perceptions du changement climatique et partagent leur expérience. Vous y retrouverez par exemple Serge Zaka, qui est médiatiquement un petit peu en ce moment au top.
Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr.
Encore vous?
Les survivants mourront de faim et de froid, ils ont la peste et le choléra.
Voyons monsieur, rentrez vous coucher, cela vaudra mieux.
Tintin pour le froid, ça va plutôt être chaud, hein, je pense. Allez, on continue aussi le feuilleton de l'A69, hein, qui nous tient en haleine depuis quelques années maintenant. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans la bataille entre les parlementaires pour le projet d'autoroute et leurs opposants. C'était dans une commission mixte paritaire, une CMP dans laquelle ils étaient réunis, que les représentants des deux chambres se sont accordés donc, sur une proposition de loi portée par les sénateurs du Tarn pour sécuriser la création donc, de ces 53 km d'autoroute qui doivent relier Castres et Toulouse. L'aboutissement de cette commission mixte paritaire faisait peu de doute, hein. Justement, c'était peut-être dans ce sens-là que beaucoup de partisans avaient aussi rejeté la proposition de loi précédente. Bon, je vous renvoie aux épisodes de la saison d'avant, hein, si vous avez perdu un peu les détails techniques. Bref, en tout cas, peu de doute sur le résultat de la CMP, hein. Les partisans du texte acquis aux défenseurs du projet avaient un net avantage, hein. Ils étaient 9 contre 5, même si quand même plusieurs élus ont mentionné des débats animés, voire tendus au sein de cette CMP, qui se déroule donc pas en public. L'accord qui en est ressorti permet donc d'envisager une adoption définitive de la proposition de loi dans les prochains jours. Il faudra pour cela qu'il y ait un ultime vote, sans dépôt d'amendement possible au Sénat et à l'Assemblée. Donc on devrait être vers le début du mois de juillet. Ce texte de compromis donc pour cette loi, qui tient en quelques lignes, et donc est le même que celui qui avait été adopté au Sénat, il est assez inhabituel, hein. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est très décrié depuis qu'il a été sorti du chapeau par les pro-autoroutes. Ce texte de loi vise à conférer au chantier de l'autoroute une raison impérative d'intérêt public majeur. Autrement dit, donc, il ouvre la voie à des dérogations pour la protection des espèces, au nom du désenclavement du territoire, dont je vous avais déjà dit qu'il était quand même très très relatif, et un argument un petit peu vide. En validant rétroactivement en plus des autorisations environnementales, ça pourrait empêcher un nouvel arrêt des travaux, et ce même si la conformité des dispositions législatives à la Constitution même est pour remise en question sur le fait qu'une loi puisse passer au-delà donc d'une décision de justice. Ce énième volet parlementaire donc n'a pas fini, il va se poursuivre en parallèle de la reprise timide des travaux qui a lieu en ce moment, qui a été autorisée suite à une décision à la fin du mois de mai de la Cour administrative d'appel de Toulouse. Les travaux avaient, je vous le rappelle, été interrompus fin février par un jugement précédent qui avait annulé justement la fameuse autorisation environnementale accordée au projet d'autoroute. La cour administrative d'appel doit encore se prononcer en fin d'année sur le fond du projet et le texte de sécurisation, lui, franchir la dangereuse étape du Conseil constitutionnel que d'ailleurs ne manqueront pas de saisir les opposants au projet. Les opposants au projet qui ne baissent pas les bras, hein, qui ressortent tous leurs dossiers et qui reprennent justement le chemin des tribunaux, puisqu'ils réassignent de nouveau l'autoroute A69 devant le tribunal. Ce sont les associations La Voie est libre ainsi que France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées. Ils viennent de déposer ce lundi 23 juin donc une citation directe au tribunal correctionnel de Toulouse encore. Avec cette action en justice, les militants écologistes accusent donc le concessionnaire de l'autoroute Atosca d'avoir commis en tout 18 infractions aux mesures. Les mesures éviter, réduire, compenser qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de tels chantiers. Des espèces invasives hors de contrôle, des arbres abattus et des mares comblées hors des périodes autorisées et sans contrôle préalable d'écologues, des prélèvements en eau illicites, etc., etc. Une longue liste menée donc par les ONG devant le tribunal administratif. Pour eux, NGE Atosca recevra prochainement une citation à comparaître pour une audience devant le juge. Les conséquences seront lourdes pour le concessionnaire si ces actes ne restent pas impunis. Atosca est en effet abonné aux irrégularités, hein, sur le chantier. Entre juin 2023 et décembre 2024, les travaux avaient déjà fait l'objet de 42 reports en manquement administratif, le tout ayant abouti à 15 mises en demeure et à des astreintes financières. Et à côté de cela, sur le terrain, eh bien, les tensions entre opposants, forces de l'État et pro-autoroute sont très vives, Avec la preuve encore, ces derniers jours, on a appris que des mesures d'intimidation avaient encore été menées à l'encontre, justement, d'opposants à l'autoroute A69. Ainsi, dans la nuit du 24 au 25 juin, des individus qui se revendiquent comme des pros, donc pro-autoroute, ont installé par exemple des panneaux d'injures sur plusieurs ronds-points des environs de Castres, où on peut y lire « Oui à l'A69, non aux voyous ». D'autres ont listé les noms des soutiens et des hébergeurs présumés de voyous, hein. Par exemple les gens qui laissent leur terrain pour organiser des rassemblements anti-autoroute et qui sont donc ciblés directement par ces tags et ces pancartes. Des devantures de maisons ont été couvertes de peinture rouge et certains ont encore en mémoire les traumatismes, notamment au mois de septembre dernier, hein, une famille avait été victime d'incendie volontaire avec cocktail Molotov où des individus cagoulés avaient menacé une femme devant ses enfants et son mari, ils avaient mis le feu à la maison. Qui heureusement a été maîtrisé. Bref, des méthodes de mafieux hein, qui illustrent bien les gros enjeux et les gros sous certainement derrière toute cette histoire d'autoroute et les moyens déployés par les tenants du dossier.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Allez, on va parler radio maintenant, radio publique notamment avec Radio France qui commence aujourd'hui sa grève illimitée contre principalement les mesures de Rachida Dati, la ministre de la Culture, avec sa réforme de l'audiovisuel public très controversée. Ce sont donc les antennes du groupe Radio France qui ont commencé aujourd'hui une grève pour protester contre ce projet porté par Rachida Dati et également pour des problèmes en interne. C'était donc pour la première fois depuis longtemps que les auditeurs des antennes de Radio France n'ont pas eu la matinale, avec à la place un message diffusé « Nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels ». C'est le début pour la Maison Ronde, 4 jours avant que les autres sociétés de l'audiovisuel public rejoignent ce mouvement général de grève illimitée, donc lui clairement organisé pour s'opposer aux restrictions budgétaires et donc à la réforme de l'audiovisuel public, le tout étant porté donc par la ministre Rachida Dati. Cet appel à la grève a été déposé par l'ensemble des organisations syndicales dans le but donc de défendre Radio France, ses radios, ses métiers, sa production, ses formations musicales et de s'opposer au projet de holding de l'audiovisuel public. C'est ce qu'écrivaient les tenants qui ont déposé le communiqué visible sur les sites des différentes radios et diffusé à l'antenne. Dans le viseur donc pour ces premiers jours de grève, plusieurs transformations de fond qui ont été entamées par la présidente de Radio France, Sybille Veil, et notamment des économies à réaliser dans l'entreprise. Par exemple, l'arrêt brutal de la station de radio Move sur la FM, qui va donc rejoindre le DAB+, avant un arrêt programmé d'ici quelques années. Il s'agit, vous l'avez entendu, d'une grève illimitée. Le premier rassemblement est prévu ce jeudi à 13h devant la Maison de la Radio à Paris. Et lors d'une réunion qui s'est tenue hier, les syndicats ont exprimé à nouveau leur refus du projet du gouvernement de rapprochement entre Radio France et France Télévisions. Cette réforme de l'audiovisuel public, d'après eux, met en péril l'avenir des salariés de ces deux entreprises et aussi l'indépendance de l'information, enjeu crucial aujourd'hui. La grève donc va également prendre à France Télévisions et à l'INA à partir de lundi prochain, le 30 juin, et elle perturbera donc les programmes habituels de ces chaînes, de toutes les chaînes appartenant à ce groupe. Le projet de réforme de l'audiovisuel qui est porté par la ministre de la Culture sera examiné, lui, à l'Assemblée nationale, justement, c'est lundi 30 juin et mardi 1er juillet. Dans les grandes lignes, la réforme veut mettre en place donc une holding qui s'appellerait France Média, qui aurait pour mission donc de diriger France Télévisions, Radio France et ainsi que l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, le tout donc sous l'autorité d'un seul et même PDG. Pour les grévistes, l'objectif de cette grève illimitée est de faire plier le gouvernement. C'est ainsi qu'en tout cas s'exprimaient dans un communiqué les syndicats CGT, CFDT, FO, SNJ et Sud de France Télévisions, c'était le 20 juin dernier, et ils souhaitent mettre fin à ce projet de réforme dont, disent-ils, les baisses budgétaires associées ont déjà démarré et auront de graves conséquences s'il est adopté.
Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
On part à Paris avec la Marche des Fiertés qui s'organise ce week-end et la participation d'un groupe réactionnaire qui compromet la tenue même de ce défilé. Contre l'international réactionnaire, c'était le mot d'ordre de la Marche des Fiertés organisée ce samedi 28 juin. Un mot d'ordre donc très clair face effectivement à la montée des politiques réactionnelles de partout sur la planète. Un mot d'ordre clair et pourtant plutôt à l'inverse donc de cette démarche, un groupuscule d'extrême droite, transphobe et islamophobe, qui s'appelle le collectif Eros, entendait s'inviter donc à cette marche, puisque ce collectif féroce s'est autodéclaré gay et patriote. Il avait donc annoncé son intention de participer à la Pride parisienne qui aura lieu ce samedi. Mais de fait, la tenue du défilé dans les rues de Paris est compromise par cette annonce, ce qui était peut-être l'objectif recherché. En effet, l'Inter-LGBT, qui organise donc la Pride, confirmait hier auprès de Libération que la marche serait immobilisée purement et simplement si des membres de ce collectif identitaire venaient à se pointer à la manifestation. Et d'ailleurs, le groupe gay, le collectif Eros, donc ce collectif gay et patriote, a affirmé de son côté avoir échangé avec Bruno Retailleau. Celui-ci aurait promis donc l'appui de la préfecture, avec notamment une cinquantaine d'agents de police, pour les protéger. Un petit peu comme ça avait été le cas, vous vous rappelez, lors de la présence du groupe Nemesis pour la lutte contre... C'était pour la marche du 8 mars. Une tribune dans Le Monde annonce la décision donc de l'Inter-LGBT de refuser de vouloir défiler avec ce groupe. Et parmi les 327 personnalités et organisations qui ont signé cette tribune, tous reprochent à l'État, justement en proposant les services de police pour protéger le petit groupuscule, de vouloir peser sur la composition des cortèges et de favoriser délibérément la présence de groupes identitaires. C'est par exemple le collectif Problématique qui a signé ce texte, qui considère que la présence d'un groupuscule qui est masculiniste et homo-nationaliste, donc homosexuel et nationaliste, dans leur cortège reviendrait à mettre en danger les participantes et participants de la Pride à court et à moyen terme. En effet, ce groupe et collectif Eros, emmené par le bien nommé Johan Power, a pour habitude de mener des actions musclées contre le mouvement LGBT, et donc les auteurs de la tribune alertent d'ailleurs via cette petite histoire sur la dégradation générale des droits des personnes LGBT. Partout, disent-ils dans Le Monde, les personnes LGBTQIA+, sont la cible d'attaques menées par des gouvernements et des mouvements d'extrême droite. Aux États-Unis, rappelle l'article, des dizaines de nouvelles lois visent à restreindre les droits des personnes trans notamment. En Hongrie, le mouvement LGBT a lui carrément tout simplement été classé comme extrémiste et la marche des fiertés même totalement interdite.
Siamo tutti antifascisti.
Un fasciste de merde. Un fasciste de merde.
Siamo tutti antifascisti.
Réaction et réactionnaire, on continue avec la mise un petit peu dans le rouge de nombreuses associations sur le territoire français. C'est à travers le financement notamment que la situation est alarmante et qu'une étude a été faite par l'Observatoire citoyen de la marchandisation des associations. Il explore malgré tout des propositions pour en sortir, ou en tout cas des pistes de démarchandisation de ce secteur. On y parle multiplication des appels à projets, de coupes de subventions, de mise en concurrence, tout ce qui fait que le secteur associatif fait aujourd'hui face à une crise du financement. Continuer de recevoir des subventions publiques pour assurer ses missions, quitte à se taire ou à garder son rôle critique vis-à-vis des pouvoirs en place, quitte par exemple à perdre tout ou partie des subventions, c'est un des dilemmes que de plus en plus d'associations doivent affronter. Et un dilemme de plus en plus oppressant, puisqu'il influe directement notamment sur les salaires de nombreuses personnes investies. Ces associations sont donc déjà, en plus de subir les humeurs politiques, sont aussi soumises à la loi du marché. Un exemple dans cette enquête qui est rapportée dans les colonnes de Bastamag, un exemple avec la CIMAD et Louise, qui est responsable d'équipe justement dans cette association d'obédience protestante qui date quand même de 1939, hein, qui a été créée pour venir en aide aux personnes évacuées de l'Est de la France, puis aux populations pourchassées par le nazisme. Eh bien, bon, pour la CIMAD, le cadre du marché permet à l'État de vérifier qu'on soit de bons petits soldats, déplore cette travailleuse sociale. En 1981, il faut revenir sur l'histoire de la CIMAD hein, quand même, c'est là qu'ont été créés les premiers CRA, hein, les centres de rétention administrative, destinés à enfermer les immigrés sans papier, et dans lesquels la CIMAD était alors la seule à intervenir justement pour assurer l'accompagnement humain des personnes enfermées, rédiger des rapports d'activité, notamment sur les conditions de détention, et aussi pour aider éventuellement les personnes à communiquer, notamment administrativement, sur leur situation. Et bien en 2009, la présence de la CIMAD dans les CRA, donc leur présence humanitaire, on va dire, a été ouverte à la concurrence, sous la forme donc de marchés publics et d'appels d'offres. Et ainsi, d'autres organisations, parfois moins critiques ou moins pertinentes que la CIMAD, justement, vis-à-vis des pouvoirs publics, ont été choisies par l'État, sans grande surprise. Et ainsi, à chaque renouvellement de contrat, de nouvelles clauses sont introduites, qui empêchent, par exemple, aujourd'hui, la CIMAD d'exposer des critiques sur le fonctionnement de ces centres de rétention administrative dans le cadre de ses rapports d'activité. Ainsi, explique toujours la responsable d'équipe, l'État considère que comme on fait des missions de service public, on doit respecter la même neutralité que les fonctionnaires. En mai, une proposition de loi a été adoptée par le Sénat, d'ailleurs, pour bannir les associations, purement et simplement, de ces centres de rétention administrative, ce qui risque donc à terme d'imposer le silence sur ce qui se passe à l'intérieur de ces murs, qui, on le rappelle, ne sont pas des prisons, puisque personne n'a été condamné. Ils sont juste en faute de papier. Ce basculement donc, concerne malheureusement aussi tout le secteur associatif, hein, et ce, quel que soit le domaine d'activité. Ainsi, entre 2005 et 2020, la part des subventions dans le budget des associations est passée de 34%, donc un bon tiers, à 20%. En parallèle, la part de la commande publique, elle, a augmenté. On est passé de 17% à 29%. Et ainsi, déplore cet observatoire citoyen de la marchandisation des associations, on est passé d'une politique ascendante, où les associations construisaient un projet, un objet associatif à partir de besoins concrets, à maintenant une politique descendante, qui les positionne en prestataires de services vis-à-vis de l'État ou bien des collectivités territoriales. Le rapport, d'ailleurs, est accessible en ligne, si vous le souhaitez, il a été rendu public fin mai. Un autre exemple que j'ai vu aujourd'hui même dans les colonnes de France Info, hein, sur les liens donc, entre le monde politique et les associations, c'est la région Sud, donc la région PACA, hein, qui passe à l'offensive, notamment contre les associations qui utiliseraient l'écriture inclusive dans leurs dossiers. Ils ont même été jusqu'à couper les subventions de celles-ci si elles refusaient de supprimer le point médian de leur communication. Plusieurs associations dénoncent ainsi un chantage à la subvention. Par exemple, l'association Les Têtes de l'Art, qui a appris que sa demande de subvention était écartée de l'appui des dossiers, notamment sous la pression des élus d'opposition du Rassemblement National, et ce, eh bien donc au motif, certainement prétexte, que l'association utilise l'écriture inclusive sur son site internet, mais gageant que ce sont plus globalement certainement les valeurs véhiculées par certaines de ces associations qui posent problème. On pourrait aussi évoquer d'ailleurs le cas des antennes du planning familial, hein, qui se voient dans beaucoup de régions écartées des interventions en milieu scolaire, ou bien retirer leurs subventions, ou tout simplement ne pas avoir d'accès à des emplois aidés ou des services civiques, par exemple sur la région Rhône-Alpes, et surtout le plateau des Mille Vaches, où c'est vraiment une politique de la table rase qui est menée par les autorités pour essayer de les dégager du paysage. Bref, si la subvention respecte un principe d'initiative citoyenne, hein, puisque justement le but d'une subvention, c'est de ne pas imposer de projet particulier en finançant une initiative, qu'elle soit culturelle, humanitaire, sociale, éducative ou sportive, en partant du bas, eh bien le processus de marchandisation qui est dénoncé ici dans ce rapport, justement, lui, va travailler plutôt par l'appel à projet, qui va lui s'accompagner, au contraire, souvent d'une perte de sens et de nombreuses lourdeurs administratives, hein, avec des dossiers à remplir pour avoir le projet, et ensuite des comptes à rendre, et une note souvent attribuée au travail qui a été fait. Ainsi, l'association doit souvent tordre ses projets, et parfois en inventer de toutes pièces, quitte à se déconnecter des réalités ou des envies, pour satisfaire justement ces fameux critères administratifs. Et en plus, les projets sont quasiment tout le temps renouvelés de manière annuelle, donc chaque année, il faut remettre le pain à l'ouvrage, et ça ne permet donc pas de construire des projets sur le long terme. C'est un mouvement de fond qui avait été déjà critiqué et décortiqué à l'époque par Franck Lepage, hein, dans sa conférence gesticulée sur la culture. Et par exemple, ici à Radio Escapade, et avec toutes les associations avec qui on travaille, on est vraiment bien placé pour avoir observé ce glissement de fonctionnement. Et il faut aussi noter et parler de la mise en concurrence, hein, qui va mettre aujourd'hui sur le même pied et donc en concurrence des associations et des entreprises. Un exemple, toujours dans l'article de Bastamag, hein, qui décortique ce phénomène, à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, un club nautique associatif a disparu en 2022, après 40 ans d'existence quand même, et ce malgré le soutien de la population locale, le tout au profit d'une entreprise plus lucrative. Bref, je passe tous ces exemples. On va terminer quand même avec quelques pistes, hein, que le CAC explore, hein, dans ce rapport. Trois pistes de donc démarchandisation du secteur associatif, avec plusieurs questions, hein, à la clé. Comment repenser la subvention pour lui redonner du sens politique qui soit porteur d'intérêt général? Et aussi, comment redonner du pouvoir politique et citoyen à cette notion de subvention pour mieux garantir l'autonomie des associations? Trois pistes évoquées. La première, c'est ils appellent à s'inspirer des expérimentations qui se font du côté de la sécurité sociale de l'alimentation. Hein. Un projet qui veut redonner aux citoyens le pouvoir de gérer une caisse collective pour choisir leur alimentation, et ce, de manière démocratique. Il y en a dans de nombreuses régions de France, il y en a même aussi une sur Montpellier. La sécurité sociale de l'alimentation repose ainsi sur des caisses locales d'alimentation qui vont regrouper différents acteurs d'un territoire et qui conventionnent les produits et les lieux de vente, avec un système de cotisation qui permet donc à tout cela de fonctionner. C'est encore embryonnaire, mais c'est aussi surtout un bel outil de, justement, d'organisation locale et collective. D'autres pistes pour protéger le statut même des associations, le CAC donc propose de créer un statut national et européen. Ils prennent exemple là sur ce qui se fait en Belgique avec l'éducation permanente. C'est un peu l'équivalent de l'éducation populaire chez nous. Eh bien, justement, ce statut d'éducation permanente est protégé par un décret. Un décret qui garantit aux associations justement cette fonction de critique sociale, culturelle, économique et politique. Ainsi, chaque association va recevoir des financements pluriannuels, donc qui durent plusieurs années, et qui va leur, cela va leur permettre justement des projets à long terme. Et enfin, le rapport propose de soutenir l'interpellation citoyenne. Et cela, cela veut un petit peu dire de, justement de mettre les associations et les politiques publiques en collaboration justement des politiques et non simplement en petit exécutant de politiques qui auraient été prises en haut lieu. Un fonds pourrait être créé pour financer cela avec par exemple 1% prélevé sur le financement public des partis politiques et 10% sur les réserves parlementaires. La ville de Rennes a mis ce genre d'initiative en place, hein, et donc ça existe, et évidemment la municipalité a poussé tout cela. Une ville apparemment qui co-construit les politiques publiques avec des acteurs associatifs. Ils participent ainsi à la création par exemple des feuilles de route, à la définition des critères d'utilité sociale, et les associations font aussi partie d'une commission mixte d'attribution justement des subventions. Et à noter qu'une charte reconnaît aussi par écrit donc le rôle de contre-pouvoir des associations qui est nécessaire au fonctionnement d'une démocratie participative. Voilà. Peu anodin quand même l'exemple de Rennes. Pour terminer, les mots de Patricia Collère, du mouvement pour l'économie solidaire. Elle dit « Il faut qu'on soit conscient de notre force. Nous sommes des millions à entretenir des espaces d'échange. » Voilà, une petite note d'espoir, mais si vous l'aurez compris, le tableau pour le moment n'est pas très reluisant. C'était pas pour vous alarmer, mais comme je vous le disais, nous en tant que radio associative, on dépend aussi principalement, notamment d'une grosse subvention du ministère de la Culture, qu'on récupère tous les ans. Et vu que l'heure est à la tronçonneuse en ce moment, dans le côté du secteur culturel, eh bien pour 2026, on croise les doigts. Et vu qu'en parallèle, les collectivités, les associations avec qui on travaille ont elles aussi une grosse baisse justement d'entrée d'argent, souvent on est en partenariat avec eux, indirectement ça fait aussi moins de recettes. Donc voilà, on touche du bois, mais en tout cas on reste là et on s'accrochera jusqu'au bout. Allez, je vais pas vous quitter là-dessus quand même, j'ai trouvé deux petites infos rigolotes, un peu des bonnes nouvelles pour montrer qu'on a toujours notre mot à dire, notamment face aux méga riches et les partis qui leur sont aux ordres. C'est à Venise qu'on part d'abord, avec sur la célèbre place Saint-Marc, une énorme banderole avec la photo de Jeff Bezos en dessus en énorme, et il y a écrit « Si tu peux louer Venise pour ton mariage, tu peux payer plus d'impôts ». C'est un message qui dénonce la privatisation de la ville par le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, un des hommes les plus riches du monde. Ce milliardaire trumpiste, patron d'Amazon, a en effet prévu de se marier à Venise avec la présentatrice Lauren Sanchez. C'est à la fin de cette semaine, normalement, pour une fête géante. 200 VIP richissimes sont censés débarquer avec leur yacht ou leur jet privé. Le couple a réservé plusieurs hôtels de luxe, réquisitionné presque tous les taxis pour ses invités. On parle quand même de 5 yachts amarrés autour du centre historique de la ville, dont probablement celui de Jeff Bezos, de 127 mètres de long. Vous vous rappelez, c'est celui que sa femme avait été utilisé pour aller chercher à Cannes son prix pour l'engagement climatique, je crois. Une vraie prise d'assaut, en tout cas, de la ville, ça agace les habitants sur place et des collectifs qui se sont donc montés dès l'annonce de l'événement. La population s'est mobilisée au sein d'un collectif qui s'appelle No Space for Bezos, des banderoles déployées partout, des affiches collées dans les lieux emblématiques de la ville, des rassemblements et une grosse manifestation annoncée ce samedi à l'occasion justement du mariage. Nous bloquerons les canaux, nous veillerons à ce que le gâteau de mariage soit renversé, nous attaquerons et nous jetterons dans le canal si nécessaire, avait prévenu l'un des porte-parole du mouvement, visiblement très remonté. Eh bien, figurez-vous que la contestation a quand même obtenu gain de cause. Bon, ils vont quand même se marier, hein. La fête du milliardaire n'aura finalement pas lieu dans le centre de la ville. Un responsable local a informé la BBC que les convives se retrouvera dans un lieu plus excentré de la ville. Voilà, ça sera pas Disneyland, donc, pour les mariés. À noter que les Vénitiens avaient quand même déjà obtenu une victoire en 2021 aussi contre là le tourisme de masse, avec notamment l'interdiction des navires de croisière dans le centre de la ville, qui est en plus menacée d'être submergée. Donc clairement, ils ont vraiment de quoi râler les Vénitiens. En tout cas, l'arrogance et la toute-puissance des milliardaires, visiblement, ne passent plus. En 2022, Jeff Bezos avait aussi voulu débarquer à Rotterdam avec son méga-yacht, mais celui-ci ne passait pas sous les ponts et la mairie devait démonter un pont historique pour faire passer le bateau. Bon, les habitants avaient menacé de jeter des œufs pourris et de la peinture sur le bateau et la mairie, finalement, avait renoncé à son projet de démonter le pont. Allez, on termine avec un truc un peu plus mignon. Figurez-vous que la loutre fait un retour spectaculaire en France. La surface de la France qui est occupée par les loutres a en effet augmenté de 40% entre 2009 et 2023. C'est une étude du CNRS qui a été publiée dans la revue Biological Conservation. La loutre, un mammifère semi-aquatique, avait pourtant frôlé l'extinction de l'espèce au début du XXe siècle, notamment en raison de sa chasse, mais aussi de la pollution des eaux de surface et de la disparition des habitats humides. Eh bien, en 1980, la loutre est ainsi devenue, a été classée espèce protégée. Sa chasse a donc été interdite, entre autres. Et à ce moment-là, seuls quelques petits groupes existaient encore en France, notamment sur la façade atlantique ou dans le massif central. Finalement, ces populations se sont rejointes ces dernières années, d'après les recherches des scientifiques. Les loutres sont donc désormais observables en Bourgogne, dans les massifs montagneux, mais aussi dans les rivières proches de la Méditerranée, et notamment ici dans les Cévennes. Ces animaux vivent traditionnellement isolés des installations humaines, dans des endroits riches en ressources. Cette recolonisation donc, du territoire est le témoin d'une grande capacité d'adaptation de l'espèce pour des habitats variés, une bonne nouvelle donc, qui laisse espérer une installation durable de cette espèce, à condition que les habitats restent protégés et connectés encore un moment. Voilà les amis, c'est tout pour ces nouvelles du monde. On va se retrouver à l'antenne bien évidemment pendant tout l'été, puisqu'on a quand même encore du pain sur la planche. Et pour finir en douceur, je vous laisse avec les notes de guitare de Jeronimo Maya, qui nous joue Corazón Maya et qu'on a pu voir en live à Ganges à l'occasion de la Chispa. C'était un moment très très beau. Et puis voilà, de la musique et des bonnes vacances pour ceux qui en ont. A très vite.
bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.